Le journal présenté par Violette Ferreira.
Bonsoir, les méninges vont fumer au Palais des Congrès de Bienne. Le Festival international d'échecs revient pour une 58e édition dans la cité ceylandaise. Cette année, deux nouveaux tournois font leur apparition à l'événement qui débute samedi. Les tests de stimulation pour la géothermie profonde à Haute-Sorne ont commencé. Des mesures sont menées depuis ce matin. Elles permettent notamment d'analyser les risques sismiques avant une éventuelle poursuite du projet. Le conseiller fédéral Albert Rösti s'engage à défendre les principaux projets ferroviaires en Suisse romande. Une déclaration en marge d'un exercice de communication mené aujourd'hui au sommet du Molaison, auquel notre correspondant parlementaire a assisté. Nuages et averses restent au programme de la météo cette fin de journée. Le ciel va se dégager en cours de soirée et dans la nuit. Demain, le temps sera ensoleillé. Avec quelques formations nuageuses au fil des heures, les températures seront fraîches à l'aube, puis agréables en journée. Bienne redevient la capitale mondiale des échecs à partir de ce samedi. La cité ceylandaise accueille la 58e édition de son Festival international d'échecs. Pendant deux semaines, les grands noms de ce sport millénaire investiront le Palais des Congrès. Diana D'Acosta.
On a beau parler d'un jeu vieux de plus de 1000 ans, il continue d'évoluer. Et à Bienne, les organisateurs du Festival d'échecs l'ont bien compris. Cette année, deux nouveaux tournois font leur apparition. La résolution de problèmes et le freestyle chess. Paul Kohler, directeur du festival.
C'est une manière spéciale de jouer où on tire au sort les figures de la première rangée tout en gardant la symétrie du jeu. La vraie nouveauté, c'est qu'on fait ça en cadence lente. Donc une seule partie par jour, 7 rondes.
Et cette 58e édition veut aussi briser une autre barrière. Celle du handicap. Devant l'échiquier, le handicap disparaît, disent les organisateurs. Un message porté notamment par le jeune joueur italien Alessandro Marcenaro que nous présente Paul Kohler.
Là, on a quelqu'un qui est tétraplégique. Bon, il va même être aidé par son père pour faire les coups. Donc, il dit les coups et son père les joue. Donc, la tête marche très bien. Il joue le tournoi des maîtres. Il a 19 ans. Il est tétraplégique depuis l'âge de 12 ans. Mais du coup, voilà, il peut participer contre des gens qui ont la chance d'être valides. Et du coup, dans la partie, on voit plus ces différences.
Mais attention, si tout le monde peut jouer aux échecs, personne ne peut déroger aux règles. Florian Zari est là pour s'en assurer, arbitre depuis 5 ans au Festival de Bienne. Il nous prouve que ce n'est pas parce que c'est un jeu cérébral qu'on ne peut pas en venir aux mains. Florian Zari.
Très récemment, dans un autre tournoi, j'ai eu un conflit avec un autre joueur. Il accusait son adversaire justement de triche. Il a vraiment un peu, disons, semé la pagaille dans le tournoi. On a finalement appelé la police pour le sortir de la salle.
Mais l'arbitre rassure, dans le 99% des cas, un match d'échecs se déroule sans accroc. S'il y a toujours un gagnant et un perdant, c'est avant tout du fair play et de la convivialité que promettent les organisateurs de ces joutes.
Un dossier signé Diana D'Acosta. Le festival international d'échecs de Bienne se tiendra du 12 au 25 juillet au Palais des Congrès. Et parmi les têtes d'affiche attendues, le Slovène Vladimir Fedoseyev, 16e joueur mondial. Les tests de stimulation hydraulique du projet de géothermie profonde ont démarré à Haute-Sorne. La dernière phase opérationnelle du projet a commencé ce matin à Glovelier. 500 mètres cubes d'eau seront injectés à très faible débit à une profondeur de 3800 mètres durant une semaine. Des mesures seront réalisées grâce à une chaîne de 8 sismomètres installée dans le forage. Elles analyseront notamment la réaction sismique des roches. Ces données permettront ainsi de définir si le projet peut continuer comme prévu ou non. Le directeur de Géoénergie Jura, Olivier Tsing, explique que cette phase de test n'entraînera pas de nuisances.
C'est un chantier de très petite ampleur hein, comparé à ce qu'on a pu connaître avec le forage l'année passée. La seule source de bruit, c'est deux pompes qui fonctionneront effectivement 24 heures sur 24, dont le niveau d'émission sonore est bas, a été contrôlé par le canton de la semaine passée pour s'assurer du respect de toutes les normes. On est largement en dessous. On aura un faible degré d'activité. Il y a simplement ces pompes qui fonctionneront et puis la surveillance 24 heures sur 24 par les spécialistes.
On peut vraiment parler donc d'une phase décisive hein, qui commence aujourd'hui.
Toute cette phase d'exploration nous a amené des résultats qui étaient essentiels pour la suite. Et maintenant, il s'agit de la dernière phase opérationnelle. Jusqu'à présent, tous les feux sont au vert, mais les résultats qu'on aura de par ces tests, en termes de risque sismique et en termes de capacité à rendre la roche plus perméable, seront effectivement déterminants pour la suite.
Un jour historique pour l'horlogerie Hermès, voilà comment le directeur général de la marque française de luxe a évoqué la pose de la première pierre de la future manufacture au Noirmont. Et Guillaume de Seine, descendant de la famille Hermès, accompagné du maire de la commune Teignonne, Gabriel Martinoli, ont officiellement lancé le chantier d'extension du site hier. Hermès, horloger, est présent dans la commune depuis plus de 20 ans. Pour Guillaume de Seine, l'agrandissement de la manufacture du Noirmont, qui fabrique boîtes et cadran de montre, est nécessaire.
La montre Hermès a connu une très forte croissance entre 2021 et 2024, on va dire. Donc nos ateliers actuels sont un peu suroccupés et manquent de place. Donc il y avait d'abord un impératif de redonner de l'air et de l'aisance pour nos salariés et puis pour les opérations. Et puis l'idée aussi de continuer à, sur le long terme, à envisager de faire croître nos activités horlogères. Et donc d'avoir un site, je dirais, pour les 30 ans à venir ou plus, qui permette de continuer d'évoluer, de continuer d'investir dans ce métier. Donc aujourd'hui, nous avons 160 emplois sur le site existant. À terme, l'idée, c'est que, mais c'est moyen terme, quand le bâtiment sera entièrement réalisé, en espérant que, évidemment, la croissance de nos activités horlogères se continue, ça sera une centaine d'emplois supplémentaires que nous envisageons. Donc ça serait un site d'environ 250 personnes.
La montre Hermès, société créée en 1978, fêtera ses 50 ans en 2028. La marque a acheté deux parcelles de 4000 m² à la commune pour construire son extension. Le projet d'agrandissement représente un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs pour Hermès. Et Guillaume de Seine explique ce que contiendra l'extension du site.
D'abord, les savoir-faire existants, c'est-à-dire tous les savoir-faire autour du boîtier de montre, les savoir-faire très complets que nous avons autour des cadrans. Et puis, sans doute que nous allons également avoir un deuxième site d'assemblage, qui aujourd'hui est une opération qui est effectuée essentiellement dans notre site de Brugge, à côté de Bienne, où sont également les bureaux de la société. Et sans doute, sans que ce soit complètement défini encore, nous aurons des espaces pour peut-être intégrer d'autres savoir-faire que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, mais c'est encore en réflexion.
La fin du chantier d'agrandissement de la manufacture Hermès au Noirmont est espérée d'ici un peu plus de 2 ans. Le conseiller fédéral Albert Rochetti a emmené aujourd'hui les journalistes du Palais fédéral au sommet du Molaison. Une rencontre estivale informelle pour faire de la communication. Albert Rochetti n'a rien dévoilé de particulier, sinon qu'il s'assurera que les grands projets ferroviaires en Suisse romande ne seront pas mis à l'écart par l'expertise actuellement en cours par un professeur de l'EPFZ. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a fait le déplacement avec Albert Rochetti.
Ce mardi, sur le sommet du Molaison, dans le froid et le brouillard, qu'à cela ne tienne, avec son bonnet rouge vissé sur la tête, Albert Rochetti s'est plié à toutes les demandes des photographes et des caméramans, allant jusqu'à pousser une yutz à 2002 mètres, l'altitude du Molaison. Définitivement, Albert Rochetti est un excellent communicateur. Pourquoi avoir choisi le Molaison ?
L'année dernière, on était en Kandersteg, dans la Suisse alémanique. Alors pour moi, c'était clair qu'il faut aller dans une autre région de la Suisse. Et ici, au haut du Molaison, on voit vraiment la Romandie, cette très belle région. On avait le brouillard tout au début et maintenant, il fait du soleil. Et on voit vraiment quelle belle région nous avons. Et c'est aussi ça ce qui me motive dans mon département, de travailler beaucoup pour les régions. Aussi pour l'infrastructure. On voit ici aussi les thèmes de mon département, l'environnement, l'infrastructure, le train, le trafic et aussi les réseaux électriques par exemple.
Albert Rochetti s'est engagé à défendre cet automne les principaux projets ferroviaires en Suisse romande, entre Genève et Lausanne, Lausanne et Berne et entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Même si l'expert mandaté pour faire le tri devait en écarter un.
Dans le reste de l'actualité, les feux de forêt en France atteignent la ville de Marseille. Les flammes ont déjà parcouru 350 hectares selon les sapeurs-pompiers. L'aéroport de Marseille-Provence, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, a été fermé à la mi-journée en raison de cet incendie. Deux lotissements ont également été évacués et la circulation des trains interrompue au départ et à l'arrivée de la deuxième ville de France. Parallèlement, l'incendie qui s'est déclenché hier près de Narbonne, également dans le sud de la France, a quant à lui détruit plus de 2000 hectares de végétation et entraîner de nombreuses évacuations. Il n'y aura pas de nouveau délai, c'est ce qu'a assuré le président américain Donald Trump au sujet de droits de douane. Il a assuré aujourd'hui que l'entrée en vigueur reste fixée au 1er août. Hier, certains partenaires commerciaux des États-Unis, principalement en Asie, ont déjà reçu leur lettre d'information sur les surtaxes douanières.
À l'écoute d'RJB, il est 18h10.
RJB Sport.
Un Finlandais débarque à Genève-Servette. L'attaquant international Jesse Puljujärvi a signé un contrat de 2 ans avec le club lémanique de National League de hockey sur glace. Il a évolué ses 2 dernières saisons en AHL. Lui qui a aussi patiné à 414 reprises en NHL. Et toujours au chapitre transfert en National League, Brendan Perlini change d'air. L'ailier canado-britannique s'est engagé à Lugano en provenance de Lausanne. Ces annonces ont été faites aujourd'hui. Tadej Pogačar marque son territoire sur les routes du Tour de France. Le champion du monde slovène a gagné aujourd'hui la 4e étape de la Grande Boucle. Au sprint, il a devancé le maillot jaune néerlandais Mathieu Van Der Poel et le Danois Jonas Vingegaard pour signer sa 100e victoire en carrière. Au classement général, Mathieu Van Der Poel reste en jaune avant le contre-la-montre de demain dans les rues de Caen. Taylor Fritz jouera sa première demi-finale sur le gazon londonien. Le joueur de tennis américain s'est qualifié aujourd'hui pour le dernier carré de Wimbledon. Il a dominé le russe Karen Khachanov en 4 manches, 6-3, 6-4, 1-6, 7-6. En demi-finale, Taylor Fritz affrontera le vainqueur du duel entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Britannique Cameron Norrie. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Bonne soirée à vous.
RJB Sport.